VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Abidjan, 13h à Brazzaville, bienvenue à notre journal. On commence par l'Afrique centrale, présidentielle au Congo-Brazzaville. Les populations ont diversement réagi à l'appel du général Jean-Marie Michel Mokoko, un des candidats d'opposition, qui demande la désobéissance civile. Dans les quartiers sud de la capitale et à Pointe-Noire, où les forces de sécurité sont déployées dans les rues, les populations estiment que le général Mokoko a bien raison de contester les résultats du scrutin. Mais dans le camp du président réélu Denis Sassou Nguesso, dont la victoire a été fêtée hier au quartier Mpila, l'appel à la désobéissance civile n'a pas sa raison d'être. C'est ce qu'on estime. De Brazzaville, notre correspondante Gwela Ngoussou.
Quelques heures seulement après la publication des résultats à l'élection présidentielle, le général Jean-Marie Michel Mokoko, donné troisième avec 13% de suffrage, appelait à la désobéissance civile. D'après un message publié sur les réseaux sociaux, le peuple devait barrer la voie à ceux qui ont volé sa victoire. Dans les quartiers contestataires où militaires et armements sont déployés, les populations comprennent l'appel du général.
Vraiment, s'il y a un mouvement sérieux de désobéissance civile, j'adhère à ce mouvement.
Oui, moi j'ai le soutien.
Les gens en ont déjà marre.
Dans le camp du président Sassou Nguesso, la victoire à plus de 60% a été fêtée hier au stade Saint-Denis de Mpila. Ses partisans dénoncent l'appel du général Mokoko et invitent les partisans des candidats malheureux à se joindre à eux.
Lorsqu'il parle de désobéissance civique, mais je crois que ça ne marchera pas aussi, parce que le peuple n'est pas dupe.
Nous avons été lynchés et jusqu'alors nous ne sommes plus dans nos maisons respectives. Nous sommes dans des hôtels en ce moment.
Lorsqu'on fait la désobéissance civique, nous abîmons ce qu'on a construit.
En entendant la publication des résultats par le camp des opposants, Brazzaville et Pointe-Noire sont toujours celui qui vive. Nguela Ngoussou, Brazzaville, VOA Afrique.
Tchad, la détention de quatre leaders de la société civile tchadienne opposés à un cinquième mandat du président Idriss Déby Itno continue de faire des vagues. L'Union des syndicats du Tchad, qui avait appelé à une grève générale ce vendredi, exige la libération des prévenus. Et hier, une quinzaine de tchadiens ont occupé sans violence leur ambassade à Paris pour dénoncer leur arrestation. Côté opposition, les leaders de 25 partis ont fait savoir qu'ils se constitueront prisonniers ce vendredi si les quatre prévenus ne sont pas remis en liberté. Un extrait de leur déclaration lu par le président de l'Alliance socialiste tchadienne pour le renouveau, Aladou Djarma Baltazar.
Affirmons notre opposition totale à tout régime dont la politique se fonderait sur l'arbitraire, la dictature, l'injustice, la corruption, la concussion, le népotisme, le clanisme, le tribalisme, le confessionnalisme et la confiscation du pouvoir comme il est prévu dans le préambule de notre constitution.
Aladou Djarma Baltazar, porte-parole des leaders des 25 partis d'opposition au Tchad. Crise au Burundi, des jeunes ont reconnu à la radio-télévision nationale avoir tué des sœurs italiennes et enterré des personnes dans des fosses communes. Ils affirment être de mèche avec les opposants et ils disent avoir travaillé dans les quartiers contestataires opposés au troisième mandat du président Pierre Nkurunziza, réélu en juillet dernier. Mais côté opposition, on parle de manipulation politique. Le reportage de notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza.
Clovis Kwizera, alias Désiré, témoigne à la radio-télévision nationale burundaise qu'ils étaient un groupe de quatre personnes avec un chauffeur quand ils sont partis tuer les sœurs de Kamenge. Ils avaient fait plusieurs réunions dans certains quartiers contestataires avant d'aller faire leur sale besogne à Kamenge en 2014. Mais les opposants au régime de Bujumbura indiquent que c'est un montage pur et simple, organisé par le pouvoir, car ce sont des gens proches du pouvoir qui ont commis cet acte ignoble. Pour la ministre burundaise de la Justice, Laurentine Kenyana, il y a plusieurs manières de faire des enquêtes.
La population burundaise et la communauté internationale qui nous écoute doivent comprendre que nous sommes à une étape où tous les éléments qui peuvent nous renseigner sur l'auteur du crime doivent être réunis. Mais jusqu'à présent, on ne peut pas confirmer qu'il s'agit de telle ou telle autre personne. Attendons la décision du juge qui sera saisi pour le cas. Moi, je suis convaincue que tous les éléments n'ont pas été dévoilés. Ce qui fait que celui qui est en train de faire l'instruction du dossier à juger que les informations qui sont en train d'être diffusées ne vont en rien entraver le cours de la procédure d'enquête.
Pour l'avocat Fabien Segatoa, ces jeunes qui font des aveux peuvent le faire en étant en prison car ils sont très dangereux.
Ces gens-là qui ont avoué avoir commis de tels crimes ignobles, j'insiste bien sur le crime ignoble, puissent se promener dans les rues uniquement en vertu du principe de rechercher la vérité. On peut donner la vérité même si on se trouve en prison. Et généralement d'ailleurs, les gens qui passent aux aveux, ce sont des gens qui sont incarcérés mais qui avouent leur peine. Alors avouer la peine, ça veut dire donner les circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise et donner les complices, les noms des complices et leurs identités complètes et pour permettre justement à ce qu'on puisse retrouver les auteurs de ces crimes. Et il ne suffit pas de dire j'ai commis une infraction, j'ai tué une sœur et ça suffit, non. Mais ces gens dangereux, il faut quand même qu'ils soient incarcérés parce que ce sont des gens dangereux.
Ces jeunes qui font des aveux devaient voir la peine maximale de perpétuité réduite à 20 ans de prison selon l'avocat Segatoa qui indique que les autres peines doivent être divisées de moitié. La ministre de la Justice, Laurentine Kanyana, indique que tous les jeunes arrêtés dans les attaques violentes ont été relâchés et que les autres jeunes arrêtés pendant les manifestations seront libres très prochainement. Mais des organisations de la société civile affirment que les manifestants croupissent toujours dans les différentes géoles du Burundi. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Nigeria, la justice nigériane a épinglé plus de 300 sociétés et individus, dont des responsables militaires, pour avoir détourné plusieurs dizaines de millions de dollars grâce à des contrats fictifs. C'est ce qu'a annoncé la présidence nigériane dans la nuit de jeudi à vendredi. Cette affaire de corruption est liée à Sambo Dasuki, l'ancien conseiller à la sécurité nationale de l'ex-président Goodluck Jonathan, qui a servi de juin 2012 jusqu'à son limogeage l'année dernière par l'actuel chef de l'État, Muhammadu Buhari. M. Dasuki est au centre d'un vaste scandale de détournement de fonds, initialement destiné aux forces armées pour lutter contre le groupe islamiste Boko Haram et qui aurait servi plutôt au Parti démocratique populaire PDP, la formation de l'ex-président Goodluck Jonathan, pour financer sa campagne de réélection. Actualité aux États-Unis, le Malien Alassane Ould Mohamed a plaidé coupable hier à New York du meurtre d'un diplomate américain à l'extérieur d'un restaurant au Niger en décembre 2000. Les précisions de Michel Joseph.
Sa victime, l'Américain William Baltimore, âgé de 51 ans, se trouvait en Afrique de l'Ouest pour rétablir le bureau de l'attaché militaire du département américain de la Défense. Le jour même où il devait rentrer chez lui, en Caroline du Nord, deux hommes armés ont ouvert le feu sur lui après lui avoir demandé les clés de sa voiture. Touché en pleine poitrine, à l'extérieur d'un restaurant de Niamey, qu'il venait de quitter au petit matin du 23 décembre 2000, il a rendu l'âme. Les meurtriers ont aussi tiré sur un de ses collègues, le sergent Christopher McNeely, qui a survécu. L'un des assaillants, Alassane Ould Mohamed, âgé de 46 ans, a plaidé coupable de complot de meurtre devant le juge William Kuntz au tribunal fédéral de Brooklyn. Il risque 25 ans de prison et sera fixé sur son sort le 26 avril. Recherché et arrêté par le Niger, Mohamed, qui était également accusé du meurtre de 4 Saoudiens à la frontière entre le Niger et le Mali en 2009, s'était évadé en juin 2013 après une opération attribuée à des extrémistes liés à Al-Qaïda. Il avait à nouveau été arrêté par des forces françaises dans le nord du Mali en novembre 2013 et extradé par le Mali vers les États-Unis en mars 2014.
Attentat de Bruxelles, le secrétaire d'État américain John Kerry est à Bruxelles depuis ce matin pour présenter les condoléances des États-Unis à la Belgique, secouée par les attentats qui ont fait 31 morts et 300 blessés mardi. « Je suis bruxellois », a dit le chef de la diplomatie américaine lors d'une conférence de presse aux côtés du Premier ministre belge Charles Michel. Également au programme de John Kerry, venu pour offrir le soutien de Washington à la Belgique dans la lutte contre le terrorisme, des consultations avec le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker et une entrevue avec le roi des Belges. Toujours concernant la lutte contre le terrorisme, le gouvernement français annonce avoir déjoué un projet de nouvel attentat et arrêté un suspect déjà condamné en Belgique avec l'organisateur présumé des attaques djihadistes de novembre à Paris, Abdelhamid Abaoud. Selon les sources policières françaises, le suspect en question, Reda Cricket, un Français de 34 ans appréhendé hier, avait été déjà condamné in absentia en son absence à Bruxelles en juillet 2015 avec Abaoud lors du procès d'une filière djihadiste vers la Syrie. Tué 5 jours après les attentats de Paris, Abaoud est soupçonné d'avoir joué un rôle clé dans les attaques du 13 novembre dans la capitale française. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA.